sous-prétexte de terrorisme. On a eu des assignations arbitraires, on a eu il y a des gens qui ont subi des assignations arbitraires, qui ont subi des interrogatoires, il y a des vies qui ont été vraiment détruites. Après, on a vu ce qui s'est passé au moment de la COP 21. Enfin, là, on s'enfonce vraiment dans quelque chose. Enfin, moi, je ne sais pas où on va. Et je ne sais pas quelle brèche on a ouverte, mais je trouve ça... je trouve que ça fait vraiment, vraiment peur. Parce qu'on voit bien, là, en 6 mois, comment le climat se réintégrade, notamment au moment des manifestations. Jusqu'à la semaine dernière, des enseignants, des collégiens, c'est open bar maintenant, c'est open bar. On avait beau alerter il y a 6 mois, attention, là, c'est grave, on ne peut pas reconduire l'état d'urgence. Déjà, et puis, il faut voir ce qui s'est passé à l'hémicycle. Quand ils ont reconduit l'état d'urgence, ils étaient 60 députés dans l'hémicycle. Enfin, je me suis dit, mais c'est... Donc comment on peut encore appeler ça une démocratie, 60 personnes qui décident pour 70 millions, on continue encore à être sous état d'urgence avec tout ce que ça implique. Ce quinquennat, il est vraiment surréaliste, quoi. Même au moment des échéances électorales, quand on voit Valls, notre cher républicain, te prôner le front républicain, là je dévie un peu, mais c'était complètement dingue, quoi. Enfin, je veux dire, le Front Républicain, enfin, je sais pas à vous, mais moi, personnellement, il est mort et enterré depuis... on n'est plus dans le contexte de 2002. La France a changé. Enfin, on glisse vers la droite et l'extrême droite. Quand on dit l'appel à voter Strozzi qui s'affiche avec Ciotti pour faire barrage au Front National, mais lol. Je sais pas où on va, mais en tout cas... Les leçons qu'on peut donner de valeur et de rayonnement de la France, ça devient pathétique et complètement ridicule, quoi. On est, c'est une vision coloniale qu'on s'appuie quand même. Et puis, on parlait tout à l'heure d'ennemis de l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est toute la population qui est devenue ennemie de l'intérieur, pour le coup. Au début, c'était ciblé, mais là, on voit bien. Enfin, je ne sais pas, quand il y a des gens qui passent en procès, qui sont interdits de séjour dans certaines rues, des gens qui sont interdits de manifester. Enfin, c'est sous prétexte, ce contexte de lutte contre le terrorisme, ça part. On part dans le délire total, quoi. Et encore une fois, ils ont ouvert une brèche qui est extrêmement inquiétante parce que maintenant, on se disait que sous Sarkozy, c'était on avait déjà atteint les sommets, mais là, c'est... je veux dire, la droite, maintenant, ils n'ont plus qu'à récolter des fruits. La droite et à l'extrême droite, tout sur un plateau avec la loi surveillance. Pour ceux qui ont peu suivi ce qui se passait avec la loi surveillance, on est tous surveillés. On est tous des suspects potentiels. Et ennemis d'intérieur, pour le coup.
Il y a quelqu'un qui veut parler tout à l'heure.
Non, mais justement, moi, je pense que ça va vers ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, ça veut dire être bien né. C'était aussi la base de la théorie nazie. Donc c'est ce vers quoi va le système. Et moi, j'ai voulu le combattre il y a quelque temps. Et je suis parti en Afrique. C'était pour transmettre la technologie des hauts fourneaux pour que les Africains puissent transformer leur propre matière première. Je rejoins tout ce que c'est lutte contre l'insurrection, etc. Parce que j'étais parti pour ça, mais j'ai eu beaucoup d'adversaires. Notamment, j'ai été 3 mois en prison dans les services secrets camerounais et 3 mois dans les services secrets 2 ans après du Nigeria. Donc en quantité de personnes qui sont prises en otage, par exemple dans le conflit Boko Haram, au Nigeria, il y a à peu près 4500 personnes qui sont kidnappées. Par exemple, quand moi j'ai été en prison, dans les caves, on a estimé qu'il y avait 4500 autres personnes qui étaient parties dans d'autres camps et qui n'avaient pas été jugées. On n'a pas vu de juge ni d'avocat. Il y a 2500 personnes au Cameroun qui sont survécues. Et on ne sait pas les chiffres au Nigeria, au Niger ou au Tchad. Après, en parlant au niveau de la formation, moi, quand j'étais au Cameroun, je me suis battu contre les gardiens pour sortir, donc ils ont dû me transférer directement dans le building des services secrets. Le directeur des services secrets camerounais a été formé à Saint-Cyr, son chef des opérations aussi. Et le directeur des archives à l'École nationale supérieure d'administration en France. Et quand ils ont voulu présenter mon dossier au délégué du ministère, au délégué à la sûreté de l'État du Cameroun, il était en déplacement professionnel à Paris, où ses enfants faisaient leurs études. Donc, en fait, les liens entre la France, le Cameroun, et tous les dirigeants, on va dire, francophones, des pays francophones, sont très très étroits. Et il y a beaucoup aussi, par exemple, de présidents qui ont des femmes françaises, ou qui ont eu... je crois qu'il n'y en a peut-être aucun qui n'a pas fait ses études en France. C'est-à-dire qu'ils sont tous venus ici pour être formés, pour être remis en place après de là où ils venaient. Et bon, à l'heure actuelle, je pense que la France-Afrique, c'est vraiment l'illustration parfaite du film qu'on a vu au tout début. Parce que si à l'heure actuelle, vous me donnez une caméra et que vous m'envoyez en Afrique, je refilme tout ce qui a été filmé, mais non. Voilà, c'était mon petit témoignage. Après, bon, je suis en train d'écrire un livre.
Oui, juste un mot, c'est la situation actuelle, elle a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que jusqu'à présent on parlait de l'anticapitalisme, du capitalisme, etc. Et que là on touche de près pour beaucoup plus de gens qu'avant sur ce que c'est que l'impérialisme. L'impérialisme, c'est pas uniquement le capitalisme, c'est pas uniquement le capitalisme financiarisé, c'est pas uniquement la mondialisation économique, mais c'est des positions politiques, idéologiques, et on commence à s'en apercevoir concrètement maintenant de façon beaucoup plus large, et notamment, même à travers les médias tels qu'ils sont, mais on commence à parler de positions impérialistes, et le fait d'avoir été attaqué par ces affreux de Daesh, au moins a permis ça, une prise de conscience.
Oui, là, on parle, et c'est bien nécessaire, de la solidarité contre la répression. Mais je pense que c'est important aussi, même si on n'a pas des solutions miracles, d'être en recherche sur les politiques alternatives, sur quoi soutenir, qui soutenir, parce que c'est bien évident que si le monde restait, les peuples restaient braqués uniquement contre la répression, ça ne suffirait pas à ce que les peuples se libèrent. Bon, c'est banal ce que je dis, mais les peuples ne se libèrent que sur la base de projets qui sont autodéterminés par eux, qui reposent sur la justice, l'égalité, sur un programme politique. Voilà. Donc c'est pas à nous de dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faut, à mon avis, qu'on soit dans l'esprit. Autant on est dans une situation mondiale d'internationalisation des dégâts du capitalisme, de l'impérialisme, du colonialisme. Et c'est important de voir aussi s'il y a des choses qui sont porteuses d'une altermondialisation, d'une autre politique. Alors là, il y a une inégalité entre divers pays. Par exemple, dans le cas de la Palestine, aussi dramatique soit la situation, on sait quoi soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour essayer de faire avancer, étant entendu qu'au final, ça ne sera pas notre solidarité qui sera le plus important, mais ça sera la libération du peuple palestinien lui-même. Voilà. Mais pour chaque pays, c'est quand même, je pense, important de voir qu'est-ce qui est porteur d'alternatives.
Oui, je voudrais en profiter pour vous donner une information justement à propos de soutien. Je voudrais vous informer que dimanche prochain, pas demain, mais le 19, nous faisons une manifestation pour soutenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui qui est en prison en France depuis 32 ans et dont le combat a toujours été depuis sa plus petite jeunesse le combat pour la Palestine, pour la libération de la Palestine. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait le lien justement entre l'impérialisme, le colonialisme, parce que son principal combat, c'est un combat communiste, anti-impérialiste, anti-colonialiste, anti-sioniste, voilà. Et il a été arrêté en France en 84 pour des actions qui ont été revendiquées par son groupe. Alors on parlait tout à l'heure de... On n'a pas parlé de lutte armée, évidemment, je ne vais pas essayer de vous convaincre de l'efficacité de la lutte armée, parce que les points de vue divergent abondamment dans ce domaine, mais simplement que ce sont... il a fait partie quand même de groupes révolutionnaires de l'époque qui ont résisté à l'envahissement de leur pays, c'est un Libanais, et à cette époque, dans les années 80, son pays était envahi par les sionistes et que donc ils ont décidé avec quelques groupes armés d'organiser une résistance armée, de l'exporter dans les pays occidentaux responsables pour eux de l'impérialisme qui frappait entre autres leur pays. Et donc, ça fait 32 ans qu'il est dans une prison française où il y a des Basques, voilà, à Lannion, dans le sud. Et le gouvernement français ne veut pas le libérer pour des raisons... justement, pour des raisons politiques qui sont celles-ci, c'est-à-dire qu'il est anti-impérialiste et qu'il est pour la libération de la Palestine, et que ce sont des sujets qui sont encore d'actualité. Et voilà, je voulais préciser également qu'à l'époque, c'était Pasquale Fandreau et qu'il a... Ils ont essayé de lui mettre sur le dos les attentats qui ont ensanglanté Paris et que il n'était pas du tout responsable de ces attentats-là. Et par contre, il est tombé pour complicité. Il a eu perpétuité pour complicité dans l'exécution d'un attaché militaire américain, états-unien, et d'un diplomate israélien. Voilà. Et les États-Unis font partie civile dans le dossier et donc ont insisté à chaque fois, parce qu'il a demandé 9 demandes de libération, il a fait 9 demandes de libération conditionnelle. Il est libérable depuis 1999, suivant la peine de sûreté attachée à sa condamnation. Et depuis 1999, il a fait 9 demandes de libération conditionnelle qui ont toutes été refusées par le parquet français. Et parmi ces demandes, il y a eu quand même deux libérations qui ont été prononcées par le tribunal d'application des peines. Et à chaque fois qu'une libération a été prononcée, à chaque fois les États-Unis sont intervenus au niveau de l'État français pour bloquer cette libération. Voilà. En gros, vous avez ici l'appel à cette manifestation de dimanche prochain. Nous réclamons obstinément sa libération. On fait partie de plusieurs comités de soutien à sa libération depuis 10 ans. On s'acharne à essayer de faire une pression au niveau des gouvernements et libanais et français. Et, faut se rappeler quand même que la France a été mandataire du Liban jusqu'au 1er janvier 1944, mais qu'elle exerce encore une très grande influence au Liban, et que c'est pas par hasard que le Liban, en tout cas que l'État libanais, ne se soit pas mobilisé de façon énergique pour récupérer son patriote. Voilà, son compatriote. Donc, la manifestation, c'est dimanche prochain, à 14h, place des Fêtes, et nous vous invitons à nous rejoindre.
En France, sur l'Afrique, la porte d'entrée est souvent bien entendu le Maroc. Et donc, au niveau du Maroc occidental, la France est complètement complice en fait, de l'occupation des territoires occupés sahraouis. Et il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de prisonniers, donc notamment le groupe de prisonniers de Gdemizik depuis 2010, et avec des peines à perpétuité. Qui ont été prononcées, et donc il y a une mobilisation là-dessus, mais pas uniquement. Enfin, il y a des prisonniers politiques au Maroc tous les jours, avec des lieux de torture qui existent encore. Il y a la sous-traitance aussi pour les États-Unis, sous-traitance de torture, et donc des tortures systématiques, etc., avec des procès préfabriqués. Et donc, pour vous dire aussi qu'au niveau du Maroc, on en parle très peu, mais il y a une coopération donc policière, militaire, bien sûr, comme dans les autres pays, avec des formations et au niveau de l'armement. Il y a aussi une coopération, un accord judiciaire qui est passé il y a un an. En fait, il y a eu des plaintes pour torture en France par rapport au Maroc. Et c'est suite à ces plaintes qui ont été déposées, il y a eu une distension diplomatique entre le Maroc et la France. Et donc le Maroc, vexé, a suspendu ses accords judiciaires avec la France. Et donc pour se remettre bien dans le moule, Hollande sort un nouveau avec Cazeneuve. Aussi, sort un nouvel accord judiciaire France-Maroc pour un peu effacer ces tensions. Et donc, dans ce nouvel accord, il y a donc, bien sûr plus de droits au niveau du Maroc. Par exemple, quand il y a des plaintes qui sont déposées, etc., il y a plus de droits au niveau de la juridiction marocaine, par exemple, mais pas seulement. Il y a des échanges d'informations, encore une fois, sous couvert de lutte antiterroriste aussi. Et pour info, juste après, en fait, les plaintes qui avaient été déposées, c'était des plaintes contre notamment Abdelatif Amouchi, directeur de la DGST marocaine, et qui, après, il y a eu de l'annonce au niveau de l'accord judiciaire, l'annonce de la décoration de la Légion d'honneur de Abdelatif Amouchi par Hollande. C'était l'année dernière. Et pour information, donc, une des personnes qui a porté plainte, Zakaria Moumni, est passé plusieurs fois à la télé, etc. Et il y a eu une plainte pour diffamation de la part du Maroc sur lui. Et donc, en fait, il y a eu plainte pour diffamation déposée par le Maroc en France. Et donc, là, il y a deux jours, je crois, ouais, c'était le 9, donc il y a deux jours, en fait, la justice française, il y a eu le délibéré qui a rejeté, en fait, la plainte du Maroc. C'est une victoire parmi tant de choses déposées et de complicité. Donc la plainte est rejetée. Et autre petite victoire, hier, Nama Asfari, Sahraoui, qui a été condamné dans le groupe de Gdemizik à je ne sais plus combien d'années de prison, je pense que c'est plus de 15 ans de prison, dont sa femme est française. Il fait partie aussi des plaintes qui avaient été déposées en France contre le Maroc pour torture. Et donc, petite victoire, alors que je ne me trompe pas, en fait, c'est la chambre d'instruction a reconnu recevable, en fait, la plainte. Et donc, le parquet saisi et il y aura la cour de cassation qui va... Normalement, ça va être plaidé en cour de cassation.
Mais ça a déjà été jugé ?
Non, pas encore.
Alors, ça doit être la cour correctionnelle, non ?
Cassation, on m'a dit. Mais bon, du coup, c'est une petite victoire parmi tout un processus en cours, et surtout une coopération militaire, judiciaire, policière très très forte entre la France et le Maroc, et dont on ne parle jamais, que ce soit la classe politique de gauche ou de droite, les liens directe avec la famille du roi et le régime marocain voilà, sont présentes. Et, enfin voilà, c'était pour un petit clin d'œil sur le Maroc qu'on ne parle pas et que Prince Harouine n'a pas pu venir.
Moi, je voulais dire merci d'abord pour l'organisation de cet après-midi. Merci à celles et ceux qui l'ont organisé, parce que je suis vraiment d'accord avec ce que tu as souligné pour lancer la discussion sur ce qui est en commun et sur. Je trouve que c'est hyper précieux. Il y avait des choses que j'attendais, mais il y a vraiment des liens que je n'avais pas forcément en tête. Et je trouve que c'est hyper précieux de mutualiser ça. De montrer à quel point ça fait système, de montrer à quel point, au-delà des particularités des aires géographiques, on est vraiment face à une politique d'État. On le sait, mais là, on l'incarne vraiment par plein de sujets. Je pense que ça ne dilue pas du tout le propos, ça le renforce au contraire. Et je pense que, ouais, c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir construit cet après-midi comme ça. Et vraiment, merci. Je dis ça aussi parce que nous, de notre point de vue, à survie, on n'est pas très nombreux, on n'est pas très, très confiants. et du coup, comme on a des forces limitées et que c'est notre propos, on se concentre sur les anciennes colonies françaises. Et on est face aussi à un sentiment de banalisation, en fait, de ce qu'on dit. Ça fait plus lever grand monde quand on essaye de mobiliser sur des ventes d'armes ou sur la réception d'un dictateur ou sur des éléments en fait qui sont hyper importants, mais voilà. Et je pense que vraiment, je sais pas si je pense à un groupe de réflexion, de travail, d'écriture, de un groupe comme ça qui pourrait vraiment travailler à la mutualisation de tout ce qu'on vient de se dire serait, je pense, très très important par rapport à ça. Et sur la dimension impérialisme, sur la dimension coloniale, on l'a vu via Mathieu, je vous encourage vraiment de lire ces bouquins, notamment celui-là que j'avais lu trop vite il y a quelques années et que j'ai relu maintenant. Et vraiment sur, je peux le faire passer si vous voulez, sur la logique impérialiste aussi en termes de territoire et en termes de zones à conquérir, de zones à militariser, de désignation d'ennemis. C'est vraiment extrêmement éclairant entre la logique coloniale historique, la logique coloniale extérieure actuelle et la logique intérieure. C'est vraiment incroyablement choquant, éclairant. Et sur la dimension, le lien entre les opérations dites extérieures et l'espace national comme espace à conquérir, à militariser, à mater, de fait de mon boulot, moi des fois je me fais un peu mal, je vais voir les blogs de militaires et je vais voir le site du ministère de la Défense et ça fait bizarre. Et c'est incroyable à quel point même le vocabulaire est le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein d'opérations militaires françaises, Chamal en Irak et en Syrie, Barkhane, j'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui en France il y a une opération militaire qui s'appelle Sentinelle, qui est une énième déclinaison du plan Vigipirate, mais et en termes vraiment de champ lexical, de désignation de l'ennemi, de cadre guerrier, il n'y a pas de rupture, on est vraiment sur la même logique et avec des ennemis incarnés qui sont dans le même répertoire, pour reprendre un terme qu'utilise beaucoup Mathieu. Et je pense que c'est vraiment vraiment très important de se saisir de cette dimension impérialiste, mais aussi impérialiste à l'intérieur. Enfin, c'est un terme qu'on n'emploie pas forcément pour notre espace, mais je pense que, moi je l'emploie de plus en plus parce que c'est assez frappant. Nous on a produit deux petits rapports, on n'a pas trop de sous en ce moment, donc on n'a pas pu en faire beaucoup de tirages, mais ils sont téléchargeables gratuitement sur le site de Survie. Il y en a un en février sur... doctrine de la lutte contre le terrorisme, état d'urgence et intervention militaire en cours. Et un deuxième sur ça, sur la coopération militaire et le maintien des régimes alliés en Afrique. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à c'est télécharger gratuitement. Et par rapport au lien avec ce que je disais au début, s'il y a des gens qui sont... Alors je ne sais pas comment Julie ou... Enfin, je sais pas comment ce qui a été discuté aujourd'hui peut être le début de quelque chose de régulier dans le cadre de la commission ou de votre groupe de travail. Mais moi, les liens qu'on fait là, ils m'intéressent vraiment, à la fois en termes d'enrichissement de l'analyse, mais aussi en termes de mobilisation. Et voilà, moi, je serais assez partant pour que ce qui s'est passé aujourd'hui soit le début de quelque chose, quoi.
Juste pour dire que l'un des objectifs, un peu, c'est ça, c'est quand on a organisé cette journée, parce que je dis c'est parce qu'au départ, on voulait faire aussi un truc le dimanche, et notamment pour pouvoir parler de Rossatori et des mobilisations par rapport à Rossatori. Il se trouve que demain, il y a des collectifs j'ai pas l'heure exacte, qui font des discussions aussi sur Eurosatory, parce qu'ils ont prévu de faire des actions du coup sur ce forum de l'armement, forum européen de l'armement, qui va avoir lieu quand même tous les deux ans, de lundi à vendredi. Et puis là, la coordination là, des groupes d'action qui se réunit à Nanterre, qui est plus liée au mouvement social. Ils vont peut-être aussi en discuter ou aujourd'hui ou demain. Ouais, du coup, peut-être demain, là, j'attendais qu'ils me confirment là, dans les discussions un peu qu'ils ont, de quand, qu'est-ce, etc. Enfin, voilà, parce que du coup, bah, ils ont le même, c'est tombé sur les mêmes dates. Mais l'idée, même au départ, même on savait que ça allait être brouillon, mais l'idée, c'est peut-être justement de pouvoir commencer à mettre en commun, et puis dire bon, bah, même ce qu'on n'arrive pas à faire cette fois-là, si ça continue, qu'on puisse se revoir à d'autres moments. Nous, c'est vrai qu'il y a une préoccupation par rapport à ces accords de coopération policière et militaire, par exemple, entre la France et le Mexique, qui sont partagés aussi par d'autres. Enfin, chacun dans le pays aussi où il a des gens proches et des histoires proches. Et donc, comment on met un peu en commun ces choses-là, ça ne se fera pas juste en une fois. Donc, Mathieu Rioux, lui, il parlait qu'ils voulaient, eux, ils pensaient organiser des rencontres peut-être fin août, début septembre, quelque chose comme ça, ou cet automne, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a ça un peu à voir, peut-être dans la discussion qu'on peut avoir, un peu au-delà du constat, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir partager un peu plus. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre constat, c'est qu'il y a un certain isolement dans lequel on se retrouve, nous aussi, par rapport au Mexique. Comme d'autres gens, par rapport à la France-Afrique, par rapport au Basque, voilà, typiquement cette histoire de Jonda. Et c'est des histoires qui souvent restent dans un cadre, dans un pays, comment on fait pour établir un peu ces espaces de discussion où à un moment donné, bon, bah, c'est cette histoire-là que moi je la connaisse bien, comme. Toi ou d'autres gens, etc., puissent directement situer ce qui se passe par rapport à Ayotzinapa ou d'autres choses comme ça, etc. Voilà, c'est un peu. Après, du coup, c'est un peu peut-être là où on peut ouvrir la discussion, un peu quelles idées on peut avoir aussi par rapport à ça. Et nous, il y a un des trucs aussi, c'était le marché de l'armement, quoi. Un peu la préoccupation la France, c'était déjà une puissance coloniale, c'était déjà une puissance militaire. Aujourd'hui, chaque fois plus, l'économie en situation de crise, qui est un peu l'analyse aussi que les apatistes font de la dynamique capitaliste actuellement. C'est-à-dire que la dynamique capitaliste actuellement, elle va chaque fois plus vers la guerre, et parce que la guerre est à la racine du capitalisme aussi. Mais du coup, en France, enfin, en l'État français, on est encore d'autant plus concerné par cette militarisation chaque fois plus forte en temps de crise. Là, par exemple, la balance commerciale, il la pallie avec des ventes d'armes et une augmentation des interventions militaires. Donc du coup, il y a un peu tout ce contexte là. Je sais pas qu'est-ce que justement les différentes personnes qui sont là.
Il y avait une prise de parole.
Pour préciser un tout petit peu, pour ajouter un élément à ce que tu dis, Edwin, et pour répondre un petit peu aux préoccupations
qui sont pas que de l'ordre de la solidarité face à la répression. En fait, cette rencontre et cet après-midi, elle était aussi pensée dans une perspective politique, clairement. Enfin, je veux dire, on est... L'intérêt ici, c'était d'identifier, de se rendre compte aussi de politique d'État, de rapport oppresseur, alors que ce soit capitaliste, impérialiste, etc. Et cette idée qu'on a là, enfin l'idée qu'on avait autour de ces journées-là, elle est aussi dans cette perspective-là. C'est qu'on n'est pas simplement sur parler des coopérations, des répressions militaires ou policières, on est dans une perspective voilà, de transformation sociale d'objectifs politiques aussi derrière ça.
Moi, c'était vraiment juste du pratico-pratique. J'ai pas retenu ton nom, excuse-moi, mais genre, représentant de survie. c'était juste que, effectivement, ça serait bien qu'on parte pas de. Enfin, constituer ne serait-ce que déjà une mailing list et voir comment on peut mutualiser tout ce qui s'est dit. Parce que, déjà, je remercie. Vraiment les organisateurs, parce que j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, il y a des luttes communes que tu as résumées tout à l'heure. Enfin, chacun dans nos organisations s'aperçoit que voilà, on a vraiment des dénominateurs communs. Et que quand on a besoin de mobiliser sur nos luttes, bah, qu'on est toujours content de s'il y a pu avoir des camarades qui peuvent arriver. Moi, survie, quand par exemple je vous suis par exemple sur les réseaux sociaux, mais quand il y a une mobilisation, je vais pas forcément savoir. Et c'est vrai que voilà, le fait, bah, c'est le nombre qui fait notre force de frappe finalement quoi. Et surtout l'information, parce que là on est complètement tous, enfin on voit bien que les gens sont anesthésiés quoi. Il se passe une actualité chasse l'autre et prendre conscience de la restriction de nos libertés individuelles, là je crois que ça passe complètement au-dessus. Il y a un tel discours dominant qui fait que il faut vraiment qu'on soit nombreux à chaque fois sur une lutte ou sur une cause pour sensibiliser un maximum, parce qu'en face ils sont très forts quoi. Donc l'idée de ne serait-ce que de démarrer par une mailing list et voir comment après on peut constituer, je sais pas, en groupe de travail ou voilà, enfin en tout cas moi je pense que rien que pour ça serait déjà génial pour aujourd'hui.
En concret, on avait mis ce papier là accroché sur la table et scotché le papier, donc l'idée c'était, et éventuellement pour avoir de la documentation, mais l'idée aussi de pouvoir justement avoir une liste et voir après, décider peut-être ensemble avec les gens qui ont mis leurs adresses, qu'on décide de faire ensemble avec cette liste. Dans un premier temps, si on n'a pas les coordonnées, on ne peut pas décider de ce qu'on fait ensemble. La proposition, si on a déjà la liste des coordonnées, après on peut décider ensemble à la fin de voir ce qu'on décide de ce qu'on fait de cette liste de mails et à quoi elle peut nous servir. Est-ce que chacun... veut bien pouvoir en faire.
Et donc, moi, je voulais parler de Rossatori, qui va ouvrir ses portes donc le 13 au 16 juin. Donc, c'est le salon des ventes d'armes. Et la fabrication d'armes, c'est aussi, on va dire, la lutte contre ces personnes-là, c'est, on va dire, un sujet assez commun à toutes les luttes qui sont ici. Et donc très concrètement, il y a une association qui s'appelle les Désobéissants. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Mais comment ça s'appelle ?
Désobéissants. Et donc ils m'ont informé que demain le 12 juin, de 14h à 17h, à l'adresse, c'est le 6 rue Arnold Géraud, 13 450 Lille-Saint-Denis. Ils vont faire une réunion et on va décider d'actions à mener pour essayer de bloquer ou ralentir en tout cas la tenue du salon.
Voilà.
Comment ?
Aussi, là aussi, il y a plusieurs poétiques, groupes, il y a une map, enfin je veux dire, on a une carte qui s'est créée. On connaît tous les luttes un petit peu là, mais du coup, on a la même position. Ça fait comme une grosse carte dans le temps et dans les géographies. Et je ne sais pas si tu fais partie des oppositions.
Un peu.
Ouais. Du coup, c'était pas trop de liens qui sont faits en fait, entre un groupe qui, je pense, depuis des années, fait des actions sur Rossatori ou Essay. C'est très bien de pouvoir entrer un petit peu, entrer en mode ici et
Non, mais je pense que bon, Survie, les autres associations, s'ils participent à des actions communes, notamment sur ce salon, ça peut fédérer un peu les gens et que les gens se connaissent un peu mieux et qu'il y ait plus d'échanges d'informations et puis à terme bah, aboutir à quelque chose de plus uni. Mais je trouve que la lutte contre Rossatori, c'est très important. C'est même capital vis-à-vis de la vie. Parce qu'on s'attaque directement à la mort, et la mort, ben, c'est malheureusement quelque chose que certains provoquent plus sur certains que d'autres. Voilà. Donc, on ait une sorte d'égalité face à elle, ce serait une bonne chose déjà dans un premier temps.
Juste pour sourire, rappelez-vous, 1966, la conférence de la Havane, de la tricontinentale, organisée par Ben Barka. On n'est pas du tout dans la même situation politique. Il y avait effectivement dans le monde entier des luttes armées, des luttes soutenues par les peuples. Mais je pense qu'on a effectivement actuellement, je pense qu'on a le besoin de coordination qu'on a, ne serait-ce qu'entre nous aussi, et plus largement, on sous-estime notre capacité de riposte et de, en tout cas, au moins d'analyse et de coordination. Alors je dis, c'est pour sourire évidemment, on ne va pas comparer, mais il y a ce besoin-là. Moi, je suis frappé par la diversité des mouvements de soutien, des luttes. Les luttes, on les connaît plus ou moins, mais voilà, et c'est vraiment indispensable de ne pas rester chacun dans son coin sans forcément pondre une grosse organisation qui va tout bloquer. Au moins de coordonner et faire que, et quand on appelle quelque part, on sache que les autres viennent aussi, au moins sur la région parisienne, puisqu'on y est. Autrefois, il y avait un organisme qui s'appelait le CDTIM aussi, je parle comme le vieux que je suis, mais c'est vrai quand, c'est-à-dire comité d'études, c'était comité d'études anti-impérialistes, enfin, qui était très large, mais le CDTIM appelait une manifestation, tout le monde venait parce que c'était le CDTIM, c'était pas le comité Sahraoui, uniquement le comité Sahraoui, le comité un tel, parce que c'est vrai qu'on en a un peu marre d'avoir des petites manifestations qui sont en comité restreint et il y a vraiment un besoin, il faut qu'on soit à la hauteur de l'attaque du système, quoi. Puisque là, on va être touché très précisément dans nos libertés individuelles, mais surtout dans nos libertés politiques d'intervention. L'ANAS, puisque c'est le mot actuel, elle se resserre politiquement, c'est clair. Il faut qu'on dénasse.
Moi, je me demandais si, du coup, comme on avait plein d'horizons différents, mais en même temps, avec des choses là, qui se répètent et qui se retrouvent à chaque fois dans les différentes situations, je ne sais pas quel objectif on peut se donner, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser à terme à une brochure actualisée aujourd'hui sur une carte Et puis en même temps, avec les articles, quelque chose actualisé sur les coopérations militaires françaises, policières, etc., en faisant participer un peu tout le monde.
La CNT participe,
mais c'est justement, je n'ai pas de connaissance de qui. J'ai vu beaucoup de signataires. Donc
c'est collectif. Stop la guerre.
Pardon.
Oui. Contre la guerre. Stop la guerre. Ça peut comme ça, un truc.
Agir contre la guerre.
Ni la guerre, ni les armes. C'est comme ça.
Ce que je trouve intéressant justement ici, c'est aussi le fait que on est plusieurs, il y a des collectifs, dans des soutiens à des luttes locales, des luttes sociales, etc. On est aussi des militaires, et c'est pas juste contre la guerre en soi et contre les armes en soi, c'est aussi ce relais-là, mais c'est juste.
avec lesquels on est solidaire, etc.
Qui sont en guerre. Qui sont eux en guerre.
Ouais, ça c'est un peu difficile. En fait, ce que disait Greg, c'est compliqué un peu peut-être. Bon, des fois, nous, la difficulté qu'on a parfois en tant que collectif à participer à ces grands rassemblements, organisations, etc. Tout ça, c'est la proximité, par exemple, qu'on a avec en tant que collectif avec les apatistes, c'est parce qu'il y a une position de construire l'autonomie du mouvement social et de ne pas la construire en créant une organisation électorale, mais en construisant l'autonomie ici et maintenant, là où les gens sont, bah, pour le coup, eux, dans leur communauté. Mais du coup, c'est l'horizon un peu qu'on partage, nous, en tant que collectif, un peu, de dire, bon, bah, on ne pense pas qu'en prenant le pouvoir à gauche, etc., enfin, on ne pense pas qu'il y a vraiment grand-chose qui va se fabriquer, mais par contre, en défendant nos lieux, nos espaces d'autonomie, que ce soit ici, ce lieu, la CNT, que ce soit... un restaurant associatif autogéré, que ça soit des jardins partagés, que ça soit la ZAD, que ça soit les squats, etc. Enfin, tous les lieux, en tout cas, en se réappropriant ces lieux-là et en les défendant. Ça, c'est un peu la vision politique qu'on a en tant que CSPC. Après, la répression, elle déborde. Elle déborde ça. Donc, en même temps, on n'a pas envie non plus de dire... Ah oui, on discute qu'avec les gens qui pensent exactement comme nous. Mais c'est vrai qu'on nous, on a un peu cet horizon un peu international qui existe plus au Mexique et en Amérique latine qu'ici, qu'on appelle la sexta, qui est un peu cette vision de construire à partir d'en bas à gauche. Quoi. Pas en haut à gauche, mais en bas à gauche, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que les gens disent, de s'écouter à la base et voir qu'est-ce qu'on peut fabriquer. Après... Après, par exemple, par rapport à cette coopération policière et militaire, il y aura un intérêt évident à pouvoir mener, mener une campagne commune ou en tout cas faire du matériel commun, etc. C'est un peu, je pense, pour ça qu'il faudrait qu'on reste en lien pour pouvoir se retrouver à une autre date qu'on prépare mieux et qu'on porte pas juste nous, par exemple, en tant que... CSPCL ou Paris Ayotzinapa, etc., à la rentrée où on puisse, par exemple, élaborer que ce soit ça, que ce soit un ouvrage, un livre en commun ou d'autres matériels en commun, etc., petit à petit, quoi, de pouvoir. Et des actions communes.
Moi, je pensais à une chose très, très simple qui pouvait être faite sans attendre forcément notre rencontre, tout ça, qui peut surtout appeler l'attention des gens de toute cette chape des pays comme la France, qui, dans la géographie et dans le temps, ont toujours transporter leur terreur, en fait, et transporter... là, justement, on venait de dire que sous l'état terroriste, tout pouvait... cet appel terroriste et l'appel... pas la constitution de la France, ça s'exportait beaucoup, c'est de faire une carte, là, juste une carte en papier qu'on pouvait déposer un petit peu partout, en mentionnant juste les opérations historiques, les collaborations qui continuent, l'exportation de la formation de la gendarmerie française, tout ça, juste une carte du monde avec tous les endroits où la France, elle a foutu ses pieds avec son armée, sa formation, sa manière de faire du renseignement, et ça, je pense que ça, c'est pas forcément un site tout de suite, machin, mais de... voilà. Hein ? Comment ? Ouais, mais bon, c'est pas un site non plus, c'est aussi quelque chose que... Enfin, chacun peut...
C'est pas facile, on a déjà beaucoup d'éléments, rien que cet après-midi.
Bah, je trouve que rien que cet après-midi, la carte, elle est déjà pas mal.
On
va
pas faire mettre en forme, hein, c'est pas aussi simple.
Edwin, yo me he preguntado, perdón, no hablo francés, yo me he preguntado, si me pudieras ayudar, yo me he preguntado como mexicano, cómo hacer para que los 378 mil desplazados de la frontera norte del país no dejen sus casas. Frente a la amenaza implementada desde arriba del Estado del famoso crimen organizado.
Du coup, peut-être, je sais pas si Anne-Marie te... Enfin, Barry, c'est, bon, c'est un camarade à nous, un copain à nous de, qui a vécu, qui a traversé la guerre sale aussi au Mexique. Et du coup, on va le... et du coup, la question qu'il pose...
c'est comment les 340
voilà.
000...
Que faire
comment on peut empêcher que les 360 000 personnes qui soient déplacées à cause de ce qui se passe au nord du Mexique. C'est ça. Hein.
Sí, yo me lo pregunto todos los días frente a la noticia, frente a los medios que tienen además una estrategia criminal.
Et donc, se pose la question tous les jours, en particulier en lisant les médias qui ont une façon de faire criminelle.
De presentar la seguridad nacional como algo imposible hoy en día.
Y que presenta la seguridad nacional como algo imposible hoy en día.
Por ejemplo, ¿cómo decirle a una ama de casa que sale en las mañanas a su puerta a dejar al niño a la escuela y encuentra un brazo, una cabeza, un pie?
Par exemple, qu'est-ce que dire à une femme, à une mère de famille qui sort avec son enfant tous les matins et qui rencontre au coin de sa rue un bras, une tête, un pied?
Lo pregunto porque siempre hemos dicho que el espacio público, el espacio de convivencia es algo que tenemos que defender.
Et je me demande ça parce que toujours on s'est dit que l'espace public, l'espace de vie, c'était quelque chose qu'on devait défendre.
Que es el espacio en donde se constituye o se construye la conciencia social.
Que c'est là où se construit la conscience sociale.
Intercambiamos puntos de vista, hablamos y decimos lo que queremos decir.
On partage des points de vue, on dit ce qu'on a à dire et on voit ensemble.
Y sin embargo, hoy en día, desaparecen médicos, enfermeras, odontólogos, que se lleva el crimen organizado.
Et aujourd'hui, disparaissent des médecins, des dentistes, des scientifiques. Et c'est le crime organisé qui les fait disparaître. On parle du Mexique.
Que se los lleva.
Qui les emmène.
Para que trabajen para ellos.
Pour qu'ils travaillent pour eux.
¿Cómo podría yo hacer sociología política frente a 36.000, que son 38.000 ahorita ya, 38.000 desaparecidos, levantados, que los han levantado en menos de 10 años, a 38.000 jóvenes, hombres y mujeres, que fueron a buscar trabajo y que han desaparecido?
¿Cómo je pourrais faire de la sociologie politique face a 38.000 personas que en 5 años?
En 10 años.
En 10 ans ont disparu des jeunes qui cherchaient simplement du travail.
Y sin embargo, los medios de comunicación, la televisión, la prensa, hacen de esto una comedia trágica.
Et les médias font de ça une espèce de comédie tragique.
Que lo único que hace es fortalecer la militarización de la sociedad mexicana.
Et la seule chose que fait cette blague, c'est de fortifier la militarización.
La militarización. La guerra contra el narcotráfico es la nueva cara del capitalismo bárbaro.
La guerra contra el narcotráfico es le nouveau visage du capitalisme.
El narcotráfico es el brazo armado del capitalismo.
Le narcotráfico es el bras armé du capitalisme.
La estrategia que se está implementando en México o que se implementa en México tiene un solo objetivo.
Et la estrategia que est en train de se mettre en place au Mexique, elle n'a qu'un seul objectif.
La acción cínica del Estado contra cualquier respuesta social.
C'est l'action cynique de l'État contre une quelconque réponse sociale.
O sea, la violencia como respuesta.
La violencia como respuesta.
La violencia en todos los sentidos. Desde la violencia policíaca militar hasta el biopoder.
enfermedades, polución. Se ha incrementado el nivel de toxicidad en la Ciudad de México como un proyecto de las nuevas de las más firmas transnacionales.
Il dit qu'en fait, c'est la violence à tous les niveaux, c'est autant au niveau de militaires, policiers, qu'au niveau de la santé, qui en fait, c'est que dans l'espace public, enfin, que toute la, enfin, que toute la, la contamination, tout ça, ça a augmenté, mais c'est aussi comme, comme un espèce de. Hein, une stratégie.
Es el ejercicio del biopoder y muchos de nosotros y nosotras lo olvidamos dentro de nuestros análisis.
Enfin, des multinationales du pouvoir du biopoder, je sais pas.
Y concluyo. Cuando el Estado decide desaparecer 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Et quand l'État décide de faire disparaître 43 jeunes à Ayotzinapa,
lo hace con la intención precisa, clara, de provocar una crisis nacional.
Ils le font avec l'intention claire de provoquer une crise nationale.
Una crisis nacional. En donde la capacidad de respuesta de la misma,
dans laquelle la capacité de réponse de cette,
en un primer momento es fuerte. En un primer momento es fuerte.
Dans un premier moment, elle est costaud, elle est forte.
Pero después, sale ganando.
Mais après, ils y gagnent.
Sale ganando porque genera una sociedad que está totalmente abúlica. Una sociedad que ha aprendido a comerse la muerte y está todos los días comiendo la muerte. Es una sociedad bulímica.
Mais sur la longue durée, en fait, ça fabrique une société boulimique qui a pris l'habitude de digérer la mort.
Y las respuestas sociales, ya no digo de y las respuestas sociales cada día son menos.
Et les réponses sociales, elles sont tous les jours moins fortes.
El país México está lleno de focos rojos. Hay muchos movimientos sociales, pero ninguno dialoga entre sí.
Et donc le Mexique est plein de foyers rouges, de plein d'endroits où il y a de la revendication, de la révolte sociale, mais aucun ne communique entre eux.
Entonces, las preguntas siguen ahí en el aire. Seguimos pensando qué hacer.
Es por eso que ça continue mon questionnement dans l'air.
Cuando tenemos el silencio de la sociedad en contra o como respuesta.
Alors qu'on a le silence de la société contre nous ou en réponse à ce que aux questions qu'on se pose.
Non. Je pense qu'on va en discuter à l'extérieur de ça, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu à justement sortir des cloisons dans lesquelles on est, enfin, qui font que voilà, survie, enfin, les infos de survie vont dans le réseau de survie, les infos du collectif du Pays Basque vont dans le réseau du collectif du Pays Basque, les infos que nous on fait, elles vont dans. Enfin, on est assez prisonniers de ça et tous on a l'impression de communiquer parce qu'on fait des sites, on a chacun notre site internet, on a chacun notre liste de diffusion, on fait chacun notre événement. Mais comme on fait chacun nos trucs, bah du coup, ça veut dire qu'on n'a pas forcément le temps ou l'attention pour lire les autres, quoi. Jusqu'au moment où on se rencontre comme aujourd'hui, et du coup, le fait de se rencontrer, bah, ça fait que oui, peut-être que je vais aller chercher l'information sur ce que l'autre fait. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie justement de créer ces espaces de rencontre et de s'inviter les uns les autres, quoi. Je pense que c'est. Enfin, moi, j'ai l'impression de ça. Je me dis. C'est on fait pas assez de rencontres, enfin c'est après c'est un voilà c'est un de casser ces frontières-là, quoi. Peut-être que, voilà, c'est un constat, faudrait voir s'il est partagé ou pas, etc. Mais peut-être que le problème qui fait que, justement, il y a cette impuissance qui gagne, etc., c'est aussi de ne pas pouvoir raconter, de ne pas pouvoir se raconter les histoires les uns les autres. Après, comme elle disait une copine, quoi, c'est, au moment où on les raconte, il y a une telle dose d'horreur. Enfin, je veux dire, il suffit de raconter le Rwanda, et une fois que tu racontes le Rwanda, tu fais quoi ? Mais c'est pas facile, une fois qu'on se raconte les choses, de voir qu'est-ce qu'on fait avec tout cet écrasement-là. Mais eux, en tout cas, ils parlent tout le temps entre eux, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est la... Le constat, c'est ça, c'est que la coopération internationale entre la police et les militaires, elle est énorme. Elle est énorme. Mais nous, les moments de coordination, de discussion, et de, ils sont faibles. Enfin, en tout cas... Enfin, ça c'est un constat un peu individuel. Donc après, c'est peut-être comment justement on met en place ça qui, à mon avis, petit à petit, peut permettre de recréer un mouvement, notamment contre l'industrie de l'armement, contre ces accords de coopération policiers, militaires, pouvoir avoir des mobilisations qui font que on va pas bouger pour le Cameroun juste si on est Camerounais. Enfin, je sais pas. Mais il faut voir si c'est un constat partagé.
Je pense que justement, si on a un ennemi commun, même s'il y a des petits groupes ou des petites associations, si on a le même objectif de, on va dire, le bloquer, le ralentir, par exemple, au niveau de tout ce qui est armement, je voulais juste préciser quelque chose, c'est que là, il y a Eurosatory, mais il y a quelque chose qui est encore plus néfaste que Eurosatory, ça s'appelle la DGA. Et quand monsieur parlait de stratégie, donc la DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement. C'est eux qui définissent les armes de demain. Donc c'est eux qui récupèrent toutes les politiques de savoir quelles armes ils vont créer pour tel conflit, pour tel dictateur, etc. Et ça, ce serait vraiment on va dire un groupe à en priorité attaquer. Bon, attaquer tous ensemble, même si c'est par petits groupes, bon, ça s'appelle un peu de l'anarchie, mais ça peut être efficace et ça peut être profitable à la vie dans son ensemble. Voilà, c'est comme ça que je le vois.
Sur l'expérimentation des armes, plutôt à usage militaire et plutôt à l'extérieur, en fait, moi, ça me fait un écho sur ce qui se passe en ce moment, sur la répression des manifestations, sur les violences policières, sur l'impunité, sur les récentes décisions de justice. Et sur notamment les expérimentations d'armes, de contrôle de, comment on dit, enfin d'armes de répression en fait, de contrôle de l'ordre. Et on a vu la semaine dernière un petit document vidéo sur une arme qu'on connaissait pas, qui est expérimentée en ce moment sur des manifestants. Et on voit que cette expérimentation des armes et de l'outillage en fait... Je crois que dans la proposition de cet après-midi, il y avait l'idée du complexe industriello-militaire. Et il y a beaucoup des questions qu'on a soulevées aujourd'hui qu'il faut aussi relier à ce complexe militaro-militaire, avec la dimension militaire et le corps de l'armée, et puis sa dimension privée de business, et à quel point cette dimension-là, elle est complètement soutenue par la diplomatie, notamment par le ministère des Affaires étrangères qui a toujours été le bras non armé de l'armement, mais qui l'assumait plus ou moins, ou qui le structurait plus ou moins officiellement. Et là, notamment avec Fabius, avant son départ et son remplacement par Jean-Marc Ayrault, mais Fabius, il a complètement, et sur d'autres dimensions du mandat de Hollande, il a complètement décomplexé, en reprenant le champ lexical de Sarkozy. Il faut décomplexer le fait d'être à droite pour Sarkozy, et il faut décomplexer notre politique impérialiste et industrielle sous Hollande. Et du coup, il a complètement coaché tout l'appareil des ambassadeurs français à l'étranger. Encore une fois, particulièrement en Afrique, pour ce que j'en sais, mais je ne suis pas sûr que ce soit spécifique. Il a complètement coaché tout l'appareil des ambassadeurs français comme les premiers facilitateurs de vente d'armes, mais pas seulement. aussi de vente de surveillance, de contrôle des populations et de contrôle des données, etc. Et il a notamment fait l'année dernière un speed dating, je vous promets que c'est le cas, un speed dating, un ambassadeur, un entrepreneur. Et du coup, le ministère des Affaires étrangères organisait des speed dating au MAE pour que chaque ambassadeur, enfin chaque entrepreneur puisse, selon son cahier des charges, puisse avoir un ambassadeur comme interlocuteur premier avant de se lancer dans une activité industrielle à l'étranger. Et du coup, ce lien-là entre la diplomatie et, sous prétexte de crise économique, le fait que ce soit complètement assumé, que la diplomatie, la parole même de l'État soit facilitatrice de vente d'armes, elle est incroyablement assumée et claironnée aujourd'hui. C'est pas incroyable politiquement, mais c'est incroyable dans la façon dont c'est complètement dit et explicité par l'État. Et notamment, on a vu sur des enchaînements d'opérations extérieures et des enchaînements de décisions d'intervention militaire, on a vu que l'une préparait l'autre, et même en termes bassement de vente d'armes et de vente de contrats d'armement et de vente de contrats de services après-vente en fait des armements, notamment avec le Golfe, notamment avec l'Arabie Saoudite. Il y a des contrats dont on voit beaucoup moins les chiffres parce qu'ils concernent des choses qui sont moins impliquantes au premier abord, mais sur les questions de services après-vente des contrats d'armement, c'est des milliards, et c'est une diplomatie en fait parallèle qui engage la France pendant des années. Et il y a des rapports là qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur la façon dont l'Arabie Saoudite, au-delà de toute la dimension de financement de terrorisme, etc., qu'on connaît bien et qu'on documente plutôt bien, sur ce qui se passe au Yémen, les bombardements de l'Arabie Saoudite au Yémen. Et il y a eu des interpellations de nous, mais aussi d'autres, au niveau de la diplomatie, encore une fois, du ministère des Affaires étrangères, en disant, mais là, on inonde l'Arabie Saoudite, et on est sur des liens commerciaux et des liens de vente extrêmement importants. Ils sont en train de massacrer le peuple au Yémen, et il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune réaction par rapport à ça, sur les ventes d'armes et sur les ventes de rafales à Sissi, en Égypte aussi. Il y a eu des auditions dans les commissions de la défense où il y avait un député qui a dit à Le Drian je suis content qu'on reprenne le business avec l'Égypte parce que c'est un pays que je connais bien, j'y suis allé en vacances. Enfin, c'est de ce niveau-là, je vous assure. Il y a des retranscriptions d'auditions de parlementaires qui disent ça, alors que l'un des ordres du jour de l'audition, c'est les ventes de rafales au régime de Sissi, quoi. Enfin bref, je me suis un peu perdu là. Et juste par rapport à ce que tu disais, je ne sais pas comment tu t'appelles, excuse-moi, sur est-ce qu'on partage le constat, est-ce que nous, enfin c'est assez symptomatique, mais l'armée française, elle est dans à peu près tous les sujets sur lesquels on travaille, mais on a décidé l'année dernière de sortir d'une approche territoriale justement. Il y a des gens qui bossent sur l'armée française au Rwanda, il y a des gens qui bossent sur l'armée française en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui bossent sur l'armée française, etc. Et en fait, on a décidé il y a un an et demi, mais du coup c'est nouveau en fait, de dire, en fait, l'armée, en tant qu'acteur institutionnel, en tant que pilier de la politique étrangère de la France, et de la politique de la France, pas seulement étrangère, et du coup, nous, on est complètement dans cette dimension-là, en fait, de plus réfléchir à des interventions, et du coup, dans un périmètre, avec une population locale, etc. Donc nous, on est complètement là-dedans, on n'a pas beaucoup de force, et on n'a pas de truc magique, mais en tout cas, nous, ce qu'on dit là, c'est complètement ce sur quoi on a envie de mettre des forces et de mettre de l'énergie, quoi. C'est voilà, le fait de délier en fait nos réflexions, nos mobilisations, nos appels à rassemblement à une opération, enfin à un périmètre géographique particulier, mais d'être voilà sur un propos de système et sur un propos transversal, quoi. Donc voilà, nous avec les forces qu'on a, c'est-à-dire pas nombreuses, on voudra complètement participer à cette démarche là.
Effectivement, s'il y a des personnes qui sont intéressées à laisser leur contact pour des prochains événements, une prochaine.
prochaine suite ou même écrire, en fait, écrire les attentes que, qu'on a ou que vous avez et tout sur, sur la feuille de contact, etc. Comme ça, on sait aussi quoi en faire. La deuxième chose que nous, on se proposait, enfin, c'était ça, c'était plus par rapport aux copains, copines des médias libres mexicains, enfin du mouvement social mexicain avec qui on est en lien, c'est de leur faire une synthèse de ce qui s'est discuté aujourd'hui. Nous, c'est un peu là où c'est pareil, on a envie de leur